Dans l'évangile selon Jean, c'est la seule fois où nous avons le récit des noces de Cana, en Galilée. C'est un récit court qui a un sens, des leçons pour chacun de nous. Nous allons essayer de tirer de cette histoire quatre leçons. Je vous lis avec vous Jean chapitre 2, verset 1er. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit à Jésus : ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit : femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur : faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et chacun et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit : remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au beurre. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Enfin, un mariage comme j'aime, avec un marié et une mariée. Oh, le bon vieux temps. Seulement, dans ce mariage, il y a un problème. Comme dans tous les mariages, il y a toujours des petits détails. Il n'y a plus de vin. Je peux vous dire que j'aurais bien passé le mariage en buvant de l'eau. Et vous ? Pas trop, non, pas vous. Un mariage en panne parce qu'il n'y a plus de vin. Mais, hélas, aujourd'hui, le mariage est en panne. Pas parce qu'il n'y a plus de vin, mais parce qu'il n'y a plus d'amour. Le monde est en panne aujourd'hui. Je crois que la société est bloquée. Et nous avons besoin que Dieu, qui a fait les cieux et la terre, nous donne un mode d'emploi. Parce qu'on ne sait pas s'en sortir de ce casse-tête chinois qui s'appelle tout simplement s'aimer, vivre, être ensemble, pardonner. Nous avons perdu l'honneur. Mais le Seigneur qui a fait les cieux et la terre nous a donné un mode d'emploi, un chemin, un guide, et il s'appelle Jésus de Nazareth, le roi des Juifs et le sauveur du monde. Il nous a donné un chemin qui est Jésus, un guide qui est Jésus. Et Cana est là pour nous le rappeler. Cana, c'est le premier des miracles de Jésus. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait fait une guérison. J'aurais pensé qu'il aurait ressuscité des morts quelqu'un pour montrer que oui, c'est bien lui que l'on attendait. Eh bien non. Il va transformer tout simplement de l'eau en vin. Pour l'apôtre Jean, dans l'évangile, c'est un premier miracle, mais surtout un premier signe, un premier signal. Jésus va signaler aux apôtres, à nous, qu'il est venu pour changer ce qui ne peut pas se changer de soi-même, changer notre nature. Et il est venu montrer sa gloire, c'est-à-dire son pouvoir de transformation. Alors de cette histoire, que vous connaissez certainement, je crois que nous pouvons tirer beaucoup, beaucoup de leçons, mais cet après-midi, nous en tirerons 4 grandes leçons. Première leçon, la présence de Jésus avec nous. Jésus fut aussi invité aux noces. C'est très bien d'avoir invité Jésus aux noces. Je pense que si les mariés faisaient tout cela, ce serait une véritable transformation dans toutes les familles, non? Si on disait, Seigneur, on veut se marier, mais pas sans toi. On veut que tu sois là du premier jour au dernier jour. Je crois que la vie de la famille changerait et qu'on ne verrait pas des défilés pour rien. Mes amis, c'est un signe de cette histoire de Cana. Le Seigneur accepte d'être présent avec nous dans nos joies, dans nos maisons de chagrin, dans nos vies. Ce n'est pas un évangile désincarné. Ce n'est pas un Christ qui vient simplement sauver nos âmes au dernier jour. Il partage la vie avec nous de chaque jour. C'est un évangile qui s'incarne, qui vient avec nous dans nos chemins de joie, nos chemins de tristesse. Il connaît nos larmes, il compte nos pas, nos chagrins. Il sait tout de nous. Le Seigneur est présent avec nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Pas avec nous pour nous donner du vin. Je ne pourrais pas prêcher ce sermon avec les mêmes mots. Si j'étais, par exemple, à la Croix-Bleue ou la Croix-d'Heure, je ferais attention aux mots que je choisirais. Il n'est pas venu pour nous donner du vin, mais plutôt du bonheur. Parce que le vin ne donne pas forcément, évidemment, le bonheur. Il est venu nous donner la force, des choses que lui seul peut donner. Parce que certaines choses sur la terre ne peuvent pas se trouver dans la nature, dans notre nature, dans les plantes, dans les relations humaines. Ces choses s'appellent le sens de la vie, la présence de Dieu avec nous, la joie et le bonheur d'être accompagné par Dieu. Il fait penser, ce Jésus qui vient là dans le repas, il me fait penser au bon samaritain qui s'est arrêté sur le bord du chemin pour soigner un blessé. Donc il a mis ses mains dans les blessures, dans le sang, il a touché la souffrance. Le samaritain s'est approché d'une histoire de vie difficile. Et Jésus partage nos chambres de souffrance, nos pensées de solitude, nos crises familiales, nos tensions et nos divisions. Le Christ est là avec nous, et il faut le savoir. L'Évangile, l'Église, pardon, est là pour le dire. Les mariés, monsieur et madame, n'ont pas invité Jésus ce jour-là en disant « on ne sait jamais, on aurait peut-être besoin de lui ». Ils l'ont invité parce qu'en invitant Marie, ils ont dit « on ne va pas inviter la mère sans le fils, on va inviter le fils ». Puis on ne va pas inviter le fils sans ses amis, ils ont invité tous les amis. Quand on invite quelqu'un, on ne sait pas jusqu'où ça va. Ils se sont retrouvés avec 13-14 assiettes de plus. Ben voilà. Ils ont invité Jésus et les apôtres et les disciples, pas par intérêt. Je pense que vous n'avez pas invité vos amis parce qu'ils ont une belle voiture ou parce qu'ils ont un bon compte en banque. Vous invitez vos amis parce que vous les aimez. Et je crois qu'avec le Christ, nous l'invitons parce qu'il est Dieu, parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais quand il est avec nous, alors nous disons comme David, « Je ne craindrai aucun mal, je ne manquerai de rien, ta présence me rassure et me console. Amen. » Sa présence est rassurante, consolante, et nous ne manquons de rien. Jusqu'à la résurrection, à chaque instant. La vie avec le Christ, ce n'est pas une histoire de rencontre à venir. C'est chaque matin, chaque jour du jour, chaque heure du jour, jusqu'au dernier jour, nous vivons avec Jésus. Et dans toute l'éternité, nous vivrons avec Jésus. Vivre avec lui, c'est vivre toujours. Allez à lui. marchez vers lui, à côté de lui. Invitez-le dans votre maison, c'est-à-dire votre cœur, votre secret. Donc, première leçon, Jésus est présent avec nous dans toutes les heures, dans toutes les heures de la vie. Deuxième leçon que nous dit cette histoire de Cana, il nous manque quelque chose. Ils n'ont plus de vin. Ce qui signifie que il faut bien savoir que sur la terre, nos joies ne vont pas durer. Nos joies ne sont pas faites pour être éternelles. Un jour, le vin manque. Je veux dire, un jour, eh bien, on n'a plus la même force, le même courage, la même vision des choses, le même tonus. Un jour, on peut perdre sa joie parce qu'un enfant nous a quittés, parce qu'un homme nous a quittés, une femme. Un jour, les joies s'arrêtent. Mais ce jour-là, il faut peut-être les ouvrir aux joies éternelles. Il faut ouvrir son cœur à ce qui dure toujours. Parce qu'il est impossible de traverser cette vie seulement en comptant sur ce que nous possédons, sans compter avec celui qui nous possède, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas passer sa vie sur la terre avec son avoir, mais être avec Jésus. Sur la terre, les choses s'arrêtent un jour. Quelle poisse! Justement, que Jésus est là, on a oublié le vin. Mais qu'est-ce qui m'a mis dans une pareille situation? Je crois que si le marié avait su ça, il n'a rien su, le marié. Mais s'il avait su ça, il aurait repris le maître d'hôtel, il aurait repris les serviteurs, il aurait repris tout le monde, en disant, pour une fois que Jésus est là, mais pourquoi vous nous mettez dans une pareille entreprise? Justement, c'est parce que Jésus est là que nous voyons ce qui nous manque. Jésus est la lumière de la lumière qui éclaire la vie, qui éclaire tout homme. Et si le Seigneur ne nous éclaire pas, nous ne savons pas ce qui nous manque. Nous ne savons pas que nous sommes misérables, aveugles, pauvres et nus. Que nous sommes comme de la paille que le vent emporte. Que sans lui, nous ne sommes rien. La présence de Jésus révèle des absences, absence d'espérance, absence de vie vraie, absence de vie de qualité, absence de sens de la vie. Il te manque quelque chose, dira Jésus un jour à un riche, un jeune, plein de qualité, rempli de qualité morale. Il te manque quelque chose. Quoi ? Suis-moi, parce qu'on peut tout avoir, mais sans Jésus, on perdra tout, et nous ne sommes rien. Sans amour, nous sommes rien. Sans l'amour de Jésus, nous sommes rien. Il te manque quelque chose, donc un avenir, un sens à ta vie. Eh bien, à Cana, on a réalisé qu'il manquait le vin. Nous avons réalisé aussi que la vie ne tient pas si on n'a pas avec nous la force et la présence de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous l'avez réalisé, vous avez fait aussi un grand pas. Troisième leçon de cette histoire de Cana, la prière de Marie. Parce que c'est quand même grâce à elle que les choses se sont débloquées. C'est quand même grâce à elle que Jésus s'est levé et qu'il est intervenu. Franchement, je crois que Jésus était capable de passer la soirée en buvant de l'eau. Non. Ils n'ont plus de vin. Prière de Marie. Entre parenthèses, on ne sait pas pourquoi ils n'ont plus de vin. Je suis mauvaise langue. Est-ce qu'ils ont déjà tout bu ? Marie, c'est un peu chacun de nous. Ça représente le croyant. C'est un magnifique exemple, Marie. Exemple d'humilité, de soumission, de confiance, d'obéissance. Et elle va s'adresser à Jésus, croyant qu'il peut faire quelque chose. Pourtant, elle n'a jamais vu de miracle. Elle a vécu un miracle sans savoir ce qui allait se passer. Elle a enfanté Jésus, bien sûr, c'est un miracle. Elle ne sait pas ce qu'il va faire, mais elle fait quand même cette prière. Ils n'ont plus de vin. L'apôtre Paul dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Je pense qu'on n'a pas besoin de dicter à Dieu tout ce qu'il doit faire. Parce que Marie, elle aurait pu dire, ils n'ont plus de vin. Oh, Jésus, tu devrais envoyer Pierre pour chercher un litre de vin. Tu devrais envoyer Jean pour chercher un peu de vin parce qu'ils n'ont plus de vin. Marie n'a pas dicté à Jésus sa conduite. Elle n'a pas dicté ce qu'il devait faire. Elle a simplement fait connaître le besoin à Jésus. Vous savez, nous ne connaissons pas la nouveauté de Dieu et de Jésus. Nous ne connaissons pas tout ce que Dieu peut faire de nouveau. On n'avait jamais vu un miracle comme ça. Mais on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Un écrivain français disait, il y a quelques années, un croyant, il disait, quand j'aurai passé 10 millions d'années avec Jésus, à contempler Dieu, je pense que je m'ennuierai. Au bout de 10 millions d'années, oh beau, ça va. Et quelqu'un, un autre écrivain français, chrétien, lui a répondu. Il lui a dit, vous ne connaissez pas Dieu. Parce que Dieu se renouvelle chaque jour. Parce que Dieu est comparé à une source. Et la source est toujours nouveau. Et je vais vous rassurer pour l'éternité en vous disant que chaque jour sera sûrement différent et que nous n'arrêterons pas de dire « Ah ben c'est nouveau, ah ben c'est encore nouveau, et on n'avait pas encore vu ça. » Et puis toute l'éternité, nous passerons notre temps à dire « Ah ben c'est nouveau. » Nous irons de découverte en découverte dans la nouveauté d'un Dieu qui est capable de créer à l'infini et d'être lui-même infini. Que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu peut faire des choses nouvelles. Alors Seigneur, nous n'avons plus de joie. Seigneur, nous n'avons plus d'espérance, nous n'avons plus de santé. Seigneur, nous manquons de force en chemin. Nous ne savons plus par quel chemin aller, nous ne savons plus que faire avec nos enfants. Seigneur, Seigneur, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Faites confiance. Jésus, quand il dira, Marie, quand elle dira, faites ce qu'il vous dira, elle communique au serviteur une confiance. Elle a confiance. Elle ne sait pas comment il va faire, mais il va faire quelque chose. Elle fait confiance à Jésus. C'est un bel exemple. Jésus lui répond, femme, jamais j'aurais dit ça à ma mère. Et vous, femme, voulant bien montrer que Marie, là, elle représente un peu tout le monde. Hein. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jamais j'aurais dit ça à ma mère. Que veut-il dire? J'ai l'impression qu'il veut dire, mais enfin, quand même, on n'est pas du même monde, là. Tu me demandes du vin? Et moi, je viens pour donner ma vie, pour le salut des âmes. Moi, je viens pour annoncer un royaume qui n'est pas le manger et le boire, mais la joie, la paix par le Saint-Esprit. Moi, je viens afin que mes brebis aient la vie en abondance. Et toi, tu me demandes du vin. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais il y a un monde, il y a une différence. Peut-être a-t-il voulu faire comprendre à Marie que sa prière était maladroite. Mais Jésus a fait quelque chose. Amen. Ne craignez pas vos prières maladroites. Jésus sait se mettre au niveau de nos faiblesses. Jésus s'est mis au niveau du plus faible, du mourant auprès de lui sur la croix. L'essentiel, c'est que nous sachions qu'il nous manque quelque chose et que nous pouvons appeler Jésus et compter sur lui tant que dure la vie, les jours et les nuits et les saisons. Le Seigneur est là et nous pouvons compter sur lui. Merci Seigneur. Amen. Quand Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? J'ai l'impression que pour Marie, ça a été comme le feu vert. Magnifique Marie. Et elle va dire aux serviteurs là, qui servaient le repas, elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Voulant dire, vous allez voir, enfin, je ne sais pas ce qu'il va vous dire, mais surtout, faites ce qu'il vous dira, même si vous ne comprenez pas. Mais c'est vrai, dites-moi entre nous. Qu'y a-t-il de commun entre nous et lui? Qu'y a-t-il de commun entre l'humanité qui rame aujourd'hui, qui décline de plus en plus dans son état moral, physique, spirituel, social? Qu'y a-t-il de commun entre nous et le Seigneur? Nous sommes tellement limités, fragiles, une goutte d'eau suffit pour nous tuer. Mais ce Seigneur, voyez-vous, ce qui est en commun entre nous, c'est qu'il nous donne de sa vie et nous serons un jour semblables à lui et nous serons ses enfants bien-aimés pour l'éternité. Nous faisons partie de sa nature et de sa race. Merci au Seigneur. Amen. Différents et si proches. Alors, ce qui est la leçon de Cana, c'est la prière. Et je crois que dans toutes nos détresses que nous traversons personnellement, n'oubliez pas de frapper, de demander. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. C'est la parole de Jésus que les jeunes ont chantée cet après-midi. Mais pourquoi a-t-il dit « Mon heure n'est pas encore venue » ? L'heure de se montrer, l'heure de montrer sa puissance, sa gloire, son amour fort, c'était la croix. Et quelques minutes avant la croix, il dira à Dieu son Père, « Père, l'heure est venue !» Où désormais, je leur ferai connaître ta parole, et là où je suis, je veux qu'ils y soient aussi. Mais là, écoutez, elle demande du vin. Alors Jésus dit, « C'est pas encore le moment de me montrer tout à fait hein, avec du vin. C'est pas encore le moment. » Mais enfin, une prière a été faite, un exaucement a été donné, à plus forte raison pour vous qui priez, pour votre santé, vos enfants, votre travail, nous pouvons demander, le Seigneur est à l'écoute. Amen. Merci au Seigneur. Quatrième leçon de cette histoire, une parole de Jésus. Qu'a fait Jésus ? Remplissez d'eau ces vases. Il y avait là justement six vases qui servaient pour se purifier les mains. Les Juifs étaient très, 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 très fanatiques presque de la purification, se purifiant, se purifiant, se purifiant, se laver les mains. Remplissez d'eau ces vases. Une parole. Jésus nous secourt avec des paroles. Des paroles mystérieuses. De l'eau. On veut du vin, tu nous demandes de l'eau. Parole étonnante, on ne comprend pas très bien où Jésus veut en venir. Pourquoi cette mise en scène ? Et mais les serviteurs remplissent jusqu'à ras-bord. Ils ont rempli tous les vases. Vous savez combien il y en avait de litres d'eau ? 600. 600 litres d'eau dans les six vases de pierre. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Cela veut nous dire que face à tout ce que nous vivons, dans la parole du Seigneur que nous lisons, il faut collaborer, il faut faire quelque chose. Il faut être avec le Seigneur pour accueillir, obéir, accepter ce qu'il nous dit, ce qui nous dépasse parfois, ce qui ne nous paraît pas logique, ce qui ne fait pas partie de notre logique humaine, parce que c'est une sagesse qui n'est pas de ce monde que Jésus soit venu mourir sur une croix. C'est pas logique. Nous devons obéir à ce qui nous dépasse. Il nous demande de mettre de l'eau dans des vases, on y croit. Il met de la boue sur les yeux d'un aveugle pour guérir l'aveugle. On y croit. Il meurt sur une croix pour nous réconcilier avec le Père. On y croit. Ce que Jésus fait, on y croit. Ce qu'il dit, on y croit. La foi, c'est une obéissance. La foi, c'est une confiance. C'est accueillir une parole qui dépasse notre intelligence, une sagesse qui n'est jamais montée dans notre cœur. On n'a jamais imaginé ça dans toutes les religions du monde, que Dieu vienne mourir pour des créatures comme nous. Donc, quatrième leçon de Cana, écouter la parole, obéir à la parole. Cinquième et dernière leçon. Jésus dit, ça se passait dans les arrière-cuisines. On ne fait pas ça devant la mariée et le marié. qui s'amusait bien, il y avait de l'ambiance dans la fête. Hein. Puisez maintenant. Les serviteurs puisent de l'eau. Ah, ça ressemble à du vin, c'est peut-être pas du vin. Et en buvant, ils ont dit, mais quel vin ? Mais d'où il vient ce vin ? Puisez maintenant. Portez-en au maître de cérémonie. Nous ne puisons pas dans le vin, heureusement. Mais quand nous puisons dans les paroles de Jésus dans la Bible, nous y trouvons des paroles qui réconfortent nos cœurs, qui nous libèrent de nos craintes, qui nous apportent soutien et vie devant les assauts du monde, l'oppression du monde. Nous trouvons dans les paroles de Jésus de la lumière sur nos chemins qui ne sont pas très faciles à trouver, dans nos chemins de brouillard. Nous trouvons dans les paroles de Jésus la vie. Jésus nous transforme. Jésus s'est transformé pour nous transformer. Jésus est venu nous donner une nouveauté de vie. Si nous écoutons les paroles de Jésus, si nous recevons, si nous croyons dans les paroles de Jésus, l'apôtre Jean nous dit, ces paroles nous donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'homme qui sort de son désordre, d'alcoolisme, de mensonge, de culpabilité, et qui entend les paroles de Jésus et qui croit, il devient, par la force de ses paroles, il devient un enfant de Dieu. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Et l'évangile est rempli, le monde est rempli aujourd'hui, dans tous les continents du monde. L'évangile est rempli d'histoires de transformation. Le prophète disait, Dieu lui-même viendra, alors les oreilles des sourds s'ouvriront, les yeux des aveugles verront. Transformation. Et quand Jésus a guéri l'aveugle de Jérusalem avec de la boue sur ses yeux, il disait, je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et ça, on ne peut pas le nier. Transformation, changement. Je vous donnerai un cœur nouveau, je changerai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Transformation. Lève-toi et marche, transformation. Talita Kumi, dit-il à une jeune fille décédée depuis quelques heures. Talita Kumi, jeune fille, debout, lève-toi, je te le dis. Elle se lève, transformation. Il essuie nos larmes, transforme nos vies. Et à la fin des temps, quand il viendra, l'apôtre dit, nous serons transformés, nous serons changés, nous serons avec le Seigneur. La vie est une histoire de transformation. Le miracle de l'eau en vin, c'est pour nous dire, je vous transforme. Ce qui est plus fort que vous, j'en suis maître. Ce qui est impossible pour vous, j'en suis le maître. Ce qui est le péché, plus fort que les lois de l'univers, j'en suis le maître. Amen. Bien voyez-vous, ce qui m'a surpris, c'est que ce miracle est resté caché, discret. Seule Marie a vu, puisqu'elle était là au premier rang. Seigneur, ils n'ont plus de vin. Seuls les disciples ont vu. Et puis les serviteurs ont vu, parce qu'ils ont puisé. Mais ils n'ont rien dit comme un secret d'État. Jésus ne cherche pas du public. Quand un prédicateur comme Jésus cherche un public, ça fait un peu artificiel. Il a fait ce miracle dans le secret. Mais ce qui est beau, c'est que pour finir, le maître de cérémonie a appelé le marié. Monsieur, s'il vous plaît. Pas vous, madame, mais monsieur. Monsieur, oui. Félicitations. Hein. Félicitations. D'habitude, on garde toujours le vin qui est un petit peu piquette, quoi. On garde pour la fin. Quand on a commencé à boire un peu trop, on sert ce petit vin qui ne sert pas à grand-chose. Mais vous, là, monsieur le marié, vous avez gardé le meilleur du meilleur pour la fin. Le marié dit, je ne comprends rien. Je suis tellement ébloui par ma fiancée, par ma femme, que je n'y comprends rien dans votre histoire. 600 litres de vin. Écoutez, qu'est-ce qu'on va en faire ? Voyez-vous, les serviteurs, quand Jésus leur a dit « Remplissez d'eau ces vases », ils auraient pu dire « C'est peut-être un jeu de mariage ». Vous savez, dans les mariages, parfois, on fait des jeux. On aime bien raconter des devinettes, des histoires, des rébus, des charades. Peut-être que les serviteurs ont dit « C'est peut-être un jeu, on ne va pas s'embêter à charrier 600 litres en pleine noce. On va en mettre un litre par vase, c'est bon ». Eh bien, ils n'auraient récolté qu'un litre de vin. Ils ont été jusqu'au bout parce que, rappelez-vous, Marie leur a dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Je crois que ce soir, ce message de Marie est pour vous et pour moi. Faites tout ce que Jésus vous dira et vous ne serez pas déçus. Amen. Vivons ces choses qui nous dépassent. Je peux vous dire que le marié, la mariée, les serviteurs ont été dépassés tous par un miracle qu'ils n'attendaient pas. Mais ce miracle nous dit tout simplement, celui qui voit le Fils, celui qui croit dans le Fils, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Il est changé. Et je peux vous dire, comme l'apôtre Paul, pour conclure, nous étions enfants de colère. Nous étions morts, morts dans nos péchés. Il y a des gens, si je les interrogeais, ils me diraient, monsieur, je suis morte, je ne vis plus. Madame, monsieur, je suis mort, ma vie s'est arrêtée, tout s'est bloqué. Paul disait, nous sommes morts dans nos offenses, dans nos péchés, dans le désordre de la vie, par les blessures des uns et des autres. Mais Dieu, qui est riche en amour, par son grand amour, il nous a redonné vie avec Jésus. Il nous a changés, il nous a transformés. Ça, c'est le miracle de Cana en réalité. Ça, c'est le miracle de l'Évangile. C'est le miracle de la croix. C'est le miracle de la résurrection. C'est le miracle de l'amour de mon Dieu qui vous aime, qui aime vos enfants et vos familles. Que Dieu vous bénisse. Amen.